Radio Classique, les spécialistes.
Les spécialistes, donc Dimitri Pavlenko dans un instant et tout de suite Emmanuel Faux. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
Emmanuel, pendant que le monde entier avait les yeux tournés vers les États-Unis pour la présidentielle, la Tunisie a connu plusieurs nuits d'émeutes dans des quartiers difficiles, dirons-nous. Un réveil social qui coïncide exactement avec le 10e anniversaire de la révolution de Jasmin et le départ forcé du président Ben Ali.
En effet, Bernard, ces tensions ne doivent rien au hasard. Elles couvaient déjà en décembre dernier, alors que le pays commémorait le geste de Mohamed Bouazizi, vous savez, ce vendeur de fruits et légumes qui avait allumé la mèche des printemps arabes en s'immolant par le feu il y a 10 ans à Sidi Bouzid. Eh bien, vendredi dernier, une partie de la jeunesse tunisienne a décidé de souffler avec vigueur les 10 bougies de la chute du régime Ben Ali, qui avait mis le pays en coupe réglée, qui gouvernait par les prébendes et la corruption. Des incidents ont éclaté dans des zones défavorisées de plusieurs villes, que ce soit à Kasserine au centre, à Kairouan, à Gafsa au sud, au Kef à l'ouest ou dans la banlieue de Tunis au nord. Pendant 5 soirs et 5 nuits consécutives, des jeunes ont bravé le couvre-feu de 20 heures mis en place pour contrer la pandémie. Ils se réunissaient dans des quartiers et affrontaient la police à coups de pierre et de cocktails Molotov, s'attirant en réponse des quantités généreuses de gaz lacrymogène. Le Premier ministre tunisien a fini par monter au créneau pour dénoncer des vols et des pillages, n'ayant rien à voir, a-t-il dit, avec un mouvement de protestation pacifique. L'armée a même été appelée en renfort pour protéger les bâtiments publics. Alors finalement, le calme est revenu en milieu de semaine, avec quelques heures ici ou là. Mais selon des ONG indépendantes, il y aurait eu près de 1000 arrestations au total et des poursuites engagées pour de simples appels à la manif lancés sur les réseaux sociaux.
Il faut bien sûr préciser, Emmanuel Faux, qu'en Tunisie, comme partout ailleurs, bien sûr, la situation sociale s'est terriblement dégradée à cause de la crise sanitaire.
La crise sanitaire a aggravé les choses, c'est tout à fait évident. Et le virus qui s'ajoute à la pauvreté, ça fait beaucoup, en particulier dans ces petites villes du centre qui étaient en souffrance et qui ont vu des milliers d'emplois disparaître en quelques mois dans le secteur du tourisme et de la restauration notamment, avec un taux de chômage pouvant dépasser 50% localement dans certaines régions. Mais il y avait déjà un terreau, on peut dire. Et ce terreau, c'est celui de l'insatisfaction, de la déception et de la désillusion de toute une jeunesse qui avait placé ses espoirs dans la révolution du jasmin et qui n'a rien vu venir malgré les promesses des réformes de tous les dirigeants qui se sont succédés au pouvoir depuis 10 ans. Ce terreau, c'est celui des 20-35 ans qui forment une grande partie de la population en âge de travailler en Tunisie et qui a l'impression que le gouvernement, les partis, les députés parlent beaucoup mais ne les écoutent jamais. Bref, que le système politique tourne à vide, une sorte d'autisme général. Même le président de la République actuel, Kais Saied, élu l'an dernier largement grâce au vote des jeunes, se voit reprocher de sous-estimer la colère sociale et de laisser son gouvernement répondre au malaise par une politique surtout sécuritaire et répressive. Eh bien, résultat, des slogans comme « travail, dignité, liberté » qui animaient déjà les manifestations du printemps arabe en 2011, refleurissent à nouveau aujourd'hui. Et de plus en plus de jeunes Tunisiens qui ont perdu tout espoir d'un avenir meilleur décident de quitter le pays, diplôme en poche, pour aller tenter leur chance ailleurs.
Et prioritairement, j'imagine, bien sûr, en France, si ça leur est possible. Merci beaucoup, Emmanuel Faux. Je me tourne vers Dimitri Pavlenko. Dimitri, il faut déchanter ce matin avec vous. En fait, vous nous confirmez ce qu'on subodorait depuis un petit moment. C'est-à-dire que les prévisionnistes économistes jusqu'à décembre dernier disaient on va avoir un rebond économique formidable en 2021 qu'on estime à 6% pour le PIB. Et puis le variant britannique est arrivé en attendant le sud-africain, voire d'autres. Et là, c'est fini, terminé, ce sera pas 6%. Si on fait du positif, ce sera déjà très bien.
Oui, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, le problème va dépendre, tout va dépendre des décisions concernant un éventuel reconfinement. Oui. Le troisième, alors moi, de ce que je lis, évidemment, on voit que Olivier Véran dit une décision sera éventuellement prise à partir de la semaine prochaine. Il y a quand même une espèce de consensus qui se forme sur la quand même très forte probabilité qu'une décision soit prise, allez, on dit mi-février. Combien ça coûte un mois de confinement? Eh bien, il y a ce chiffre qui est avancé par Patrick Artus, l'économiste de Natixis, mais qui est assez sensible à ce que disait hier Olivier Dussopt, le ministre des Comptes Publics dans Les ouais. Échos. Un mois de confinement, c'est de l'ordre de 20 milliards, c'est-à-dire un point de PIB. Donc, deux mois de confinement, à chaque fois, c'est un point de PIB en moins. Donc, si on est parti sur un scénario de deux mois de reconfinement, et encore, on ne parle là que de la fin de l'hiver, début du printemps, aucune visibilité sur ce qui va se passer sur le deuxième semestre. De 6%, voilà, et d'autres paramètres, mais de 6% de perspective de croissance en 2021, avec deux mois de confinement, on retombe à 3-4%. Mmh. Et c'est donc une année 2021 qui se présente.
Ce qui serait remarquable, ce qui serait pas mal quand même, 3-4%.
Oui, compte tenu quand même d'une baisse de -9-10% d'accord. l'année dernière, cela veut dire, Bernard, qu'on ne retombe même pas au niveau de 2019. Ce retour à 2019, aujourd'hui, toujours Patrick Artus dit... ça n'est pas possible avant 2023. Quelle est la situation avec des secteurs qui sont durablement touchés, qui peut-être ne s'en remettront pas. Je vous donne l'exemple, par exemple, de la Compagnie des Alpes, leader mondial des domaines skiables, qui annonçait ses résultats sur le dernier trimestre de 2020. Moins 80%. Ils font moins 80%, sans vous parler.
Vous parliez de KLM, là, qui a tous ses avions au sol, là, tous les longs courriers, qui va supprimer des centaines d'emplois. Oui. On va parler d'Eurostar dans quelques minutes avec David Barrault. Tout ça, ce sont des secteurs... saigner, littéralement.
Oui, et alors aujourd'hui, le débat, il est en train de monter sur la responsabilité, en fait, des pouvoirs publics. Puisqu'en fait, les secteurs sont otages des décisions administratives. Évidemment que quand l'État dit on établit un couvre-feu à 18h, ça impacte le commerce, il ne le fait pas de gaieté de cœur. Mais aujourd'hui, la question est là, et le débat est en train de monter à ce sujet. Parce que quand on regarde la baisse de l'activité aux États-Unis et sa reprise, on constate qu'elle est beaucoup moins forte, cette baisse, qu'elle ne l'a été en France. Vous mettez les deux courbes en parallèle, c'est assez stupéfiant. Moins 4% l'an dernier pour les États-Unis, moins 10% pour nous. Évidemment, tout ça est la conséquence des décisions administratives. Et c'est toujours cet arbitrage impossible à faire entre le prix de la vie et le prix de l'économie. Presque 500 000 morts aux États-Unis, c'est ce que dit Joe Biden.
Pour 330 millions d'habitants. Hein.
Oui, pour 330 millions d'habitants.
On est à 70 000.
Alors, le chiffre, dans l'absolu, Bernard, quand même, 500 000, c'est quand même...
Je sais, c'est plus que... de la Seconde Guerre mondiale.
C'est quand même colossal. Et donc cet arbitrage, il est fait aux États-Unis plus en faveur de l'économie qu'il ne l'a été chez nous. Alors, est-ce qu'il va y avoir une adaptation de la politique à ce niveau-là ? Le gouvernement va-t-il réviser ses priorités au vu de l'impact économique ? On sait aujourd'hui, l'année dernière, la crise, elle a coûté au pouvoir public 80 milliards. Voilà le surcoût de la crise du Covid. Donc ce sont toutes les aides à l'économie cumulées. Et ça, c'est hors comptes sociaux. Je ne vous parle pas du coût pour la sécu, etc. Et on sait que l'État, l'année dernière, a dépensé 350 milliards. C'est 30% de plus qu'il ne récupère avec les impôts. Cet argent, on va le chercher sur les marchés. Mmh. Les marchés nous prêtent à très bon compte aujourd'hui.
Quasiment à zéro.
On a l'exemple d'une levée de fonds. 7 milliards, un horizon de 50 ans, à un taux de 0,6%. Il y a eu 75 milliards de demandes pour ce fameux emprunt, cette fameuse OAT d'il y a deux jours. Tous ces paramètres-là, ils sont cruciaux pour 2021. Et évidemment, on suivra ça au quotidien, mon cher Bernard.
J'espère bien, Dimitri Pavlenko. Et dès lundi, sans faute, dans la matinale, bien sûr, avec Guillaume Durand. Il est 7h48 exactement. Merci de nous écouter sur Radio Classique. À suivre dans une minute, le journal imprévisible. Marc Bourreau est extrêmement bien entouré ce matin.